beaucoup, Roby.
Prions ensemble pour commencer. Merci, notre Père, pour ta parole précieuse. Et nous prions que tu nous aides à voir Jésus comme le Seigneur qu'il est et ce qu'il fera dans ce monde et pour le monde à venir. Nous prions. Amen.
Amen.
Merci d'ouvrir vos Bibles au psaume 8. Comme Roby a dit, nous continuons dans les psaumes ensemble. Je vais lire le psaume 8, c'est la page 545 dans les Bibles sur vos chaises. Au chef de cœur, sur la guttite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissants, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les cours en main. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Une statistique frappante pour commencer. Selon un sondage récent, 89 des jeunes Européens entre 16 et 29 ans pensent que leur vie n'a pas de sens. 89% des jeunes Européens pensent que leur vie n'a pas de sens. Le même sondage a trouvé que l'Européen moyen passe plus qu'une demi-heure chaque jour en train de rêver à une autre vie. N'est-ce pas frappant? Il y a une crise dans notre société, surtout parmi les prochaines générations. On ne trouve pas le sens de nos vies. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de sens à nos vies? Est-ce que c'est si difficile que ça d'en trouver le sens? Et peut-être parmi nous ici, il y en a certains qui sont en train de poser la même question. Pourquoi j'existe? Pourquoi suis-je né? C'est une question tellement importante. Mais on commence à s'éloigner de la réponse de génération en génération. Cet après-midi, en tout cas, nous allons voir la réponse biblique à cette question. La réponse à pourquoi nous sommes là à partir du psaume 8. Ce psaume, nous allons voir, va nous aider à non seulement comprendre le présent et le monde sous nos pieds, mais aussi nous pousser vers l'avenir et nous donner le sens de l'éternité aussi. Voyons ce psaume ensemble. Dans les trois premiers versets, nous voyons les bouches des bébés qui bouleversent. Les bouches des bébés qui bouleversent. David commence au verset 2 avec une exclamation. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et c'est quelque chose qu'il répète à la fin du psaume aussi, au verset 10. Donc pour David, c'est très très important. David, l'auteur de ce psaume, ça semble être le point principal à capter. Le nom de Dieu est magnifique sur toute la terre. Mais la question, c'est en quoi exactement est-ce que le nom de Dieu est magnifique? Est-ce que son nom est magnifique à cause de ce qu'il a créé, dans la splendeur qu'on voit ici de l'univers? Ou est-ce que le nom de Dieu est magnifique sur toute la terre, dans le sens qu'il est magnifique parmi tous les habitants, toutes les personnes qui habitent la terre? Magnifique dans ce qu'il a fait ou ce qu'il donne aux hommes. Nous allons voir. Parce que le verset 2 parle du fait que, et je cite, « Dieu établit sa majesté au-dessus des cieux. » Les cieux montrent, dit David, que Dieu est majestueux. Et ce n'est pas tout. Il continue. Tout d'un coup, nous lisons à propos, c'est très bizarre, n'est-ce pas? Verset 3, des tout petits. Verset 3, par la bouche des enfants et des nourrissants, tu as fondé la force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et en vindicatif. À première vue, c'est bizarre, n'est-ce pas? Par la bouche des enfants, tu as fondé la force à cause de tes adversaires. Dans quel sens? Est-ce que les nourrissants, voilà, on a un nourrissant ici avec nous. Dans quel sens est-ce que les nourrissants font peur, même aux adversaires de Dieu? Comme vous, oui, vous avez remarqué, nous avons quelques enfants parmi nous pour l'instant pour ce projet d'implantation. Lou et moi, ma femme et moi, nous avons un fils de 3 mois, Sam. Alors le petit Sam, il est tellement sage, très très souriant. Il est sans doute le plus calme dans notre maison, à vrai dire. Et donc c'est juste drôle d'imaginer que lui, petit Samuel, avec ses 3 mois, pourrait faire peur à quelqu'un. Même plus que ça, peur aux adversaires de Dieu. Dieu a fondé dans la bouche des tout-petits, nous lisons comme Sam, précisément comme Sam, la force pour imposer silence à l'ennemi, ou littéralement pour détruire l'ennemi. David dit ici qu'il y a quelque chose dans les enfants qui, même par leur murmure, leur babillage, ils suscitent des frissons chez les adversaires de Dieu. Ils ne sont pas que c'est quelque chose qu'ils disent dans leur murmure, je ne pense pas que ce n'est pas le cas, mais est-ce plutôt de ce qu'ils sont plutôt, justement des nourrissants, c'est-à-dire des êtres humains. N'est-ce pas plutôt leur identité qui fait bouleverser les ennemis de Dieu? Ce sont les bouches des bébés qui bouleversent. Alors, après tout cela, je pense qu'on est censé avoir beaucoup de questions après avoir lu les 3 premiers versets. L'auteur veut nous surprendre ici avec cette image pour nous réveiller. Il a un message important à nous transmettre à propos des êtres humains ici, à propos du sens de la vie des êtres humains. Un message important pour notre société actuelle. Et heureusement, tout deviendra plus clair dans la deuxième moitié du psaume. Je pense qu'on a des questions comme, qu'est-ce qui est spécial dans les bébés? Qui sont ces ennemis? Pourquoi ce contraste entre le ciel, verset 2, et les nourrissants, verset 3? Et heureusement, nous trouvons les réponses au verset 4 à 10. Et le verset 4 commence avec un « parce que ». C'est comme si, dans l'original, ça commence avec un « parce que ». C'est comme si le verset 4 à 10 explique ce que l'auteur vient de dire dans les 3 premiers versets. Et c'est notre deuxième point. Parce que les pieds des personnes vont prédominer. Les bouches des bébés bouleversent parce que les pieds des personnes vont prédominer. L'avantage de vivre ici à Louvain-la-Neuve, juste au cas où vous voulez une raison en plus pour rejoindre le projet ici, c'est que le soir, on peut voir, et oui, on peut voir les étoiles. Quand on vivait à Bruxelles, l'année passée à Schaarbeek est magnifique pour beaucoup de choses, mais une chose nous embêtait. Quand tu pensais que tu voyais une étoile qui brillait dans la distance, je voulais montrer à mon fils aîné, l'étoile à mon fils. Et ben, en fin de compte, c'était le 21h30 qui va bientôt atterrir à Zaventem. C'était souvent le cas. Mais ici à Louvain-la-Neuve, quand tu sors la nuit, tu peux voir, tu peux contempler la splendeur des cieux, le vaste univers que Dieu a créé. Est-ce que vous saviez, si on réduisait la taille de la Terre à une balle de tennis. Si on garde la même proportion, la Lune serait, et c'était une surprise pour moi, j'avais pensé que la Lune serait à peu près ici. Mais avec ces proportions, la Lune serait de 2 mètres de distance de la Terre avec ces proportions. Est-ce que vous saviez qu'on pourrait mettre 1,3 mille Terres dans la planète Jupiter? 1,3 mille balles de tennis. Ça, c'est quand même beaucoup. Et le soleil, on pourrait mettre 1,3 million balles de tennis, selon les proportions. 1,3 million. Avec cette proportion, le soleil se trouve où exactement? Mais à 8 km d'ici, avec cette proportion. Ça, c'est plus loin que Wavre, que de Louvain-la-Neuve. Plus que 8 km d'ici. Dernière statistique, qui nous aide à comprendre les versets 4 et 5. Il existe une étoile dans notre galaxie qui s'appelle le Ui Scuti, avec les mêmes proportions, avec la Terre comme une balle de tennis. Cette étoile ferait 13 km de largeur. 13 km avec les proportions, avec la Terre comme une balle de tennis. N'est-ce pas incroyable? Est-ce que vous pouvez imaginer une étoile comme cela? Et ça, c'est juste notre galaxie. Et on estime qu'il y a 2 trillions de galaxies dans notre univers. Il y a plus d'étoiles dans l'univers que de graines de sable sur notre Terre. Alors, ça, c'est juste quelques statistiques. Mais quand on réfléchit là-dessus, je pense qu'on a le même sentiment que David dans les versets 4 et 5. Il dit, verset 4, « Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tout comme au verset 2, cette deuxième partie commence avec les cieux. Dieu comme créateur, qui a placé sa majesté au-dessus des cieux. David pense à combien l'univers est énorme. David contemple cela, et puis il dit, mais vraiment, qu'est-ce que l'homme? Nous, en comparaison avec l'univers, qui sommes-nous, vraiment? Nous sommes tellement insignifiants, n'est-ce pas? Nous sommes, en fin de compte, de très, très, très petites créatures. Mais le choc pour David, ici, c'est qu'en regardant notre petitesse, cela nous aide à apprécier encore plus la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la bonté, au verset 5, qu'il se souvient de nous. Le Dieu de cet univers immense a pensé à nous, dit David. Dans quel sens est-ce que Dieu se souvient de nous? La réponse arrive au verset 6 et 7. Et c'est extraordinaire. Verset 6. Tu l'as fait de peur inférieure à Dieu. Non, nos yeux ne nous trompent pas. C'est vraiment écrit dans la parole de Dieu. Tu l'as fait de peur inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Notre Dieu, qui est immortel, créateur, infiniment sage et bon, a décidé de donner le privilège, la responsabilité, la domination de tout ce qu'il a créé, non à lui-même. Il aurait pu faire ça. Mais quelle grâce, mes amis. Il a donné ce privilège, cette responsabilité à nous, en tant que petites créatures, qui ne sont pas infiniment sages ni bons. Quelle générosité, quelle grâce de la part de Dieu, de non seulement penser à nous, mais de nous donner une place. On peut même dire, honnêtement, une place centrale dans son plan pour l'éternité. Nous sommes en train d'apprendre ici que Dieu a fait une promesse à l'humanité, une promesse qui date depuis le commencement, depuis Genèse, avec Adam. Dieu a fait une promesse que nous, les hommes, les femmes, nous allons régner sur les œuvres de Dieu. Et donc cela nous aide à comprendre les versets 2 et 3, n'est-ce pas? Avec la bouche des bébés qui bouleverse les ennemis. Parce que, les versets 4 à 10, Dieu a donné aux êtres humains le règne à tout jamais, le règne de l'univers éternellement. Ça, c'est pourquoi c'est nourrissant même. Petit Sam, il peut faire peur aux ennemis. Le babillage des nourrissons suscite la crainte chez les ennemis de Dieu, car Dieu a déjà donné à ce petit la couronne d'honneur de régner. Dieu va accomplir sa promesse. Alors pour tous ceux qui s'opposent à Dieu, il y aura, verset 4, la silence, ou plutôt la ruine. Est-ce que nous demandons donc parfois, honnêtement, dans le silence, quand vous vous couchez le soir, ou quand les choses se passent très mal peut-être, dans la souffrance, mais c'est quoi la vie? Pourquoi est-ce que je suis né? Pourquoi j'existe? Si c'est le cas, écoutons cette leçon capitale du psaume 8. On a été créé pour une très très bonne raison, par un créateur généreux. Même dans notre petitesse, il nous a mis juste en dessous de lui. Et c'est dingue, n'est-ce pas? Il est tellement généreux. On a été créé pour le servir. Une place primordiale dans l'univers, pas juste maintenant, mais pour l'éternité. Alors, quelle tristesse, n'est-ce pas, pour ces 89% des jeunes européens. Quelle tristesse pour nous, ici, si nous passons toute notre vie, tous nos jours, même notre éternité, sans avoir compris cette réalité. C'est le moment de revenir. Revenons au vrai sens de la vie. Les pieds des personnes vont prédominer. Et pourtant, on a l'impression ici que ce psaume est en train de dire plus que ça. Ça doit être en train de dire plus que ça. Car David l'auteur, il n'est pas bête. Ce que Dieu a promis à Adam, c'était il y a longtemps, n'est-ce pas? Avant la chute. Alors, lire ici que tout est soumis, verset 7, sous les pieds des hommes. Le psaume semble donner l'impression que tout est tranquille, tout est réglé, tout est paisible. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce vraiment le cas que tout est paisible? Demain matin, quand nous verrons, nous ouvrons les journaux, vous écouterez les nouvelles à la radio, dans la voiture. Nous allons entendre sans doute à propos des guerres, de la corruption, des tsunamis, des feux qui dévorent Brésil, de la famine, de la pauvreté, de l'état de notre planète. Comment est-ce que le psaume 8 va avec la réalité de ce monde? Lorsque nous lisons le psaume 8, nous sommes censés dire, mais est-ce que l'auteur, est-ce qu'il n'est pas en train de vivre sur une autre planète? Et la réponse, c'est, en quelque sorte, oui, il est en train de vivre sur une autre planète. Et c'est notre troisième et dernier point. Le deuxième homme qui est descendu pour préparer l'humanité pour le monde à venir. Le deuxième homme qui est descendu pour préparer l'humanité pour le monde à venir. Si vous voulez bien, merci de retourner à l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, ça c'est la page 246 dans les Bibles sur vos chaises. Hébreux chapitre 2, page 246. Et on trouve dans ce chapitre le psaume 8. Est-ce que vous voyez là, au verset 6 de chapitre 2? C'est le psaume 8 qui est cité. Mais écoutons comment l'auteur aux Hébreux comprend le psaume 8 au verset 8. Nous lisons, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. » L'auteur comprend très bien ici. Il n'est pas naïf. Il voit le problème entre le psaume 8 et la réalité actuelle. Et il voit ce que Dieu est en train de promettre dans le psaume 8. Cependant, il dit verset 8, « Nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. » L'auteur estime que ce psaume parle du monde à venir. Et ça, c'est même explicite au verset 5 de ce chapitre 2, où il dit, il parle du monde à venir, verset 5. Le psaume 8, alors, c'est en essence un rappel que ce monde-ci, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas parce que Dieu sera fidèle à sa promesse faite à l'humanité tout au commencement, en instaurant un nouveau monde à venir, où tout sera enfin soumis entièrement à l'humanité. Le psaume 8 tire notre attention vers l'avenir, un monde glorieux dans le futur. Mais on se demande, comment est-ce possible? Nous ne sommes pas dignes de régner. Toute l'humanité, dit la Bible, s'est rebellée contre Dieu. Quel homme pourrait régner parfaitement ou pourrait créer une nouvelle humanité qui vit dans l'obéissance à Dieu? Comment est-ce possible? L'auteur dit ici que c'est seulement si un deuxième homme descend du ciel. Un deuxième Adam, si vous voulez, descend. En gros, si Dieu lui-même devient homme, un homme parfait qui pourrait régner et en qui Dieu peut former une nouvelle humanité. Nous lisons verset 9, et n'est-ce pas glorieux le verset 9? Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. C'est frappant, n'est-ce pas? L'auteur voit déjà dans le psaume 8 la solution. Le psaume 8 parle d'un homme que Dieu fait habiter en dessous de lui, qui descend pour un peu de temps. Ce psaume parle du moment où le Fils de Dieu lui-même est descendu. Le Créateur devient la créature pour un peu de temps. Et sa mission, la fin du verset 9, de goûter. Goûter la mort pour tous. De prendre sur lui, à la croix, quand Jésus est mort, la punition pour la rébellion de l'humanité. Et ensuite, Dieu l'a élevé. Ce deuxième homme, Jésus-Christ, il a couronné de gloire et d'honneur dans le vrai sens. Jésus a été donné la place qui est au-dessus de toutes les autres places dans l'univers en tant que Seigneur et roi. Non seulement cela, mais en lui, en ce Jésus, ce deuxième Adam, Dieu est en train de créer une nouvelle humanité. Verset 10 nous dit « Notre Sauveur élevé conduit beaucoup de fils à la gloire d'un monde à venir. » Alors le psaume 8 nous pose une grande question pour terminer. Est-ce que nous avons trouvé le sens de la vie? Pourquoi nous levons-nous le matin? Est-ce pour le sport, les études, le travail, la famille même, pour l'argent, pour la sécurité? Juste par habitude, car il y a beaucoup de choses à faire. Voici pourquoi nous sommes là, pour servir notre Créateur généreux. Pour servir notre Créateur généreux. Mais il faut aller plus loin que cela aussi, car il y a une décision à prendre dans cette vie par rapport au monde à venir. La question, est-ce que nous ferons partie de ce monde-là ou non? Car il y a un seul moyen, dit la Bible, pour accéder au vrai sens de la vie maintenant et d'être un fils de Dieu, un de ces beaucoup de fils qui vont régner dans le monde à venir. Lui, le deuxième Adam, qui est descendu, qui a goûté la mort à notre place. Seulement si nous nous confions en lui, Jésus-Christ, nous serons capables, prêts à accomplir la tâche pour laquelle Dieu nous a créés, de régner sur le monde à venir. Et mes amis, la Bible dit que ce sera un monde glorieux, pas de souffrance, pas de peine, pas de maladie, pas de mort même. Est-ce que nous nous confions en lui, Jésus-Christ, le deuxième homme qui est descendu du ciel? Et si nous sommes déjà confiés en lui, est-ce que, honnêtement, cet après-midi, nous regardons vers l'avenir? Est-ce que nous regardons vers ce monde à venir? Et ça semble assez surprenant de poser une telle question, n'est-ce pas? Parce que s'il y a un tel monde à venir, on aurait pensé qu'on réfléchit beaucoup là-dessus déjà, à ce monde-là. Ce monde à venir est certain. Jésus est couronné déjà et il conduit maintenant beaucoup de fils à la gloire. Alors, est-ce que le monde à venir figure dans nos pensées? Est-ce que demain matin, je vais réfléchir au monde à venir cette semaine? Est-ce que nous allons parler aux gens, faire en sorte que les étudiants, les habitants de Louvain-la-Neuve et à Bruxelles, voyez, où vous habitez, soient prêts pour ce monde à venir par la foi en Jésus? Que Dieu nous aide, que son nom est magnifique sur toute la terre. Prions ensemble. Merci notre Père, Créateur des étoiles de l'univers. Merci d'avoir pensé à nous, faibles créatures que nous sommes. Merci pour ce privilège immense de dominer sur la création que toi tu as formée. Et merci surtout pour Jésus-Christ, celui qui a été abaissé pour un peu de temps. Que nous voyons Jésus comme il est, que nous ayons hâte pour ce monde à venir, ce monde si certain. Que tu nous aides à garder nos yeux fixés sur cet avenir. Et donne-nous les portes, même cette semaine, pour le faire connaître ici, à Louvain-la-Neuve. Nous te prions pour ta gloire. Amen.